Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous soutenir sur Patreon comme vous le faites. Aujourd'hui, en plus de vos missions de CETRA habituelles diffusées uniquement pour vous, je vous diffuse l'enregistrement de ce podcast qui avait été originellement enregistré pour les podcasts de la cellule, mais comme nous n'étions que deux ce jour-là avec Pierre et que la discussion s'oriente davantage vers une discussion, on va dire, privée, que vers une discussion publique, j'avais préféré laisser ce podcast pour un potentiel bonus. Comme vous le savez, cette année, c'est une année sabbatique de la cellule. Il n'y aura pas de podcast diffusé, ou alors s'il y en a, ce sera peut-être un ou deux seulement. Donc du coup, je me permets de vous partager ce podcast pour vous et vous seul ce mois-ci. Voilà, merci beaucoup, bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Rosier. Pierre Rosier, bonjour.
Bonjour, monsieur Briand.
Nous sommes en petit comité, tous les deux, et nous allons aborder ensemble un sujet.
C'est Pierre et Romaric à la cellule.
Exactement. Et donc, nous allons aborder un petit sujet ensemble qui est le sujet de comment intégrer les inspirations dans la phase de création d'un jeu de rôle. Donc un petit garage que tu me proposes comme ça, alors qu'on est tous les deux
la fleur au fusil.
Exactement. Alors d'où te vient ce sujet, tandis que Darkin m'envoie des textos. D'où te vient ce sujet, Pierre? Est-ce que tu pourrais nous le préciser un petit peu?
Alors en fait, Ça a commencé quand j'ai commencé à travailler sur un petit projet perso qui évidemment n'avance pas depuis des mois parce que, comme tous les projets, n'est-ce pas?
Et on t'a pas présenté, c'est vrai, mais donc qui es-tu, Pierre Rosier? À quoi tu joues?
Bonjour, je m'appelle Pierre. Et je suis étudiant en études chinoises et coréennes.
Ça, c'est intéressant.
Ouais. Un jour, faudrait que je fasse des ADN là-dessus, je pense.
Ah ouais, ça m'intéresse à fond.
Et
l'histoire de la Chine, l'histoire de la Corée.
Ah, me questionne pas trop sur l'histoire, pitié.
Non, mais l'histoire de la pensée, par exemple. Ouais. Tu m'as ramené un bouquin sur
l'histoire de la pensée chinoise, Han Cheng, lisez-le. Qu'est-ce que je joue? Des jeux de rôle, beaucoup passionnés de jeux de rôle, notamment les tiens. Tel qu'un certain Trip to Sky. Voilà. D'ailleurs, auditeur, avez-vous joué à Trip to Sky? Si ce n'est pas le cas, je vous enjoins à rejoindre la boutique Romaric Briand et de vous en procurer un dans les plus brefs délais.
Quel enthousiasme, il fait saturer complètement son micro.
Ah oui, pardon. Ouais, je vois les traits sur le...
Je vois que... Non, mais t'as vu, tu en parles de Trip to Sky, d'un coup, le niveau augmente.
Le niveau de souffle augmente, évidemment. D'ailleurs, on va devoir en parler de Trip to Sky dans quelques... c'est bon, je suis au bon niveau pour le moment.
Non, t'inquiète.
Et voilà, et puis...
Je gère.
Évidemment, okay. Vous me connaissez, grand fan de la cellule, des jeux de tarés qu'on propose.
Intéressant aussi, tu joues un petit peu en ligne, tu as joué un peu en ligne, tu as commencé un peu le jeu de rôle en ligne.
J'ai commencé le jeu de rôle en ligne parce que de toute façon, je ne pouvais faire que ça. Hein. Parce que tu sais, quand tu es en campagne, qu'il n'y a personne, tu ne peux pas te déplacer. Le jeu de rôle en ligne s'impose.
Bien sûr.
Puis les gens ont conscience avec le confinement, etc.
Et ce qui est intéressant, et une des raisons pour lesquelles moi je t'ai fait venir à la cellule, c'est que tu as une expérience. D'abord, tu es beaucoup plus jeune que nous, tu as presque 20 ans de moins que nous, quand même, pas loin. Donc, et tu as une expérience du jeu de rôle en ligne que nous, on n'a pas. Enfin, tu vois, donc, et ça, je trouve ça intéressant. Tu as aussi un regard un peu neuf sur le jeu de rôle et tout. Et donc, ça m'intéressait beaucoup chez toi. Bon, voilà, ça c'est la petite présentation de Pierrot. Donc, beaucoup de jeux de rôle tradis aussi. Hein. T'aimes bien le jeu de rôle tradis?
J'aime bien les jeux de rôle tradis. Et puis, j'ai du mal à faire jouer à mes copains des trucs fous. Genre, tu vois, Polaris de Ben Lehman. Ça fait des... C'est Ben Lehman, hein, Polaris.
Oui, ou PHLI maintenant.
Ah oui, c'est bon.
Je suis pas sûr, mais je pense qu'il tolère que l'on parle de lui sur ses anciens jeux avec son ancien nom, parce qu'il a pas... J'ai pas vu de modification, je crois pas.
Auquel cas, je m'excuse, je ne savais pas que c'était la même personne, en fait.
D'accord, ok.
Du coup, j'essaye de le placer depuis des années, mais ça a du mal à prendre un matin.
C'est très dur, hein, Polaris, en plus, avec ces espèces de phrases clés.
Mais c'est très dur de sortir du tradit, de toute façon. Quelque part, il y a un gap, quand même, tu vois.
Mais alors, pour toi ou pour les autres? Parce que moi, souvent, quand les gens me disent j'ai envie de sortir du tradi, ils me disent mais j'ai pas la table pour jouer à ça. Moi, le nombre de fois où je reçois des mails ou des commentaires de ce type là, oui mais moi je n'ai pas la table pour jouer à ça. Ça c'est un truc qui revient très très souvent. Sous-entendu, moi mes joueurs ils veulent jouer à des jeux de rôle traditionnels.
Ouais,
tu dirais la même chose?
Ouais, bah, y a de ça, bah, je t'avais parlé de, d'un de mes joueureuses, pour, comme ça on ne sait pas de qui je parle, qui disait moi j'aime que les jeux d'aventure, ouais. Tu vois, ouais. Des trucs comme ça, donc forcément ça limite un peu la proposition, mais bon après il faut s'amuser avant tout. Bon, essayons de ne pas trop dériver.
Ouais,
alors,
Donc les inspirations dans la phase créative du...
Oui, alors du coup en fait ça remonte quand j'ai commencé un petit projet dont j'ai parlé qui s'appelle, pour l'instant le nom de code c'est Aube.
D'accord.
Et mon ambition avec ce jeu, je voulais faire vraiment un jeu d'horreur psychologique à la Silent Hill 2, aussi Silent Hill 4, tu vois, tout ce côté à un peu une exploration folle de la psyché confondue dans une ville qui est très marquée symboliquement et tout. Et évidemment, bah, quand on parle de ça, on peut pas s'empêcher de penser à Silent Hill, tu vois. Mmh. Si je te présentais le jeu comme ça de but en blanc, t'aurais dit « Ah oui, Silent Hill 2 » et tout.
Ouais.
Et moi, c'est un problème que j'ai dans la création de mes petits projets à la con. J'espère qu'un jour je pourrai en présenter si c'est assez solide.
Bien sûr.
Mais
sera très heureux de découvrir ces jeux. D'ailleurs, le thème m'intéresse beaucoup. Ça, j'aimerais bien jouer à des jeux comme ça.
Et
à un moment donné, il y en avait plein à sortir. Puis là, je trouve que c'est un peu moins.
Surtout Thomas Munier, le maître de sec, s'échapper des faubourgs.
Ouais.
Et du coup, et ça m'a poussé un peu à réfléchir sur les jeux de rôle parce que. Tu vois, il y a beaucoup de jeux de rôle tradis qui sont résumés dans leur philosophie de design, ont été résumés à leurs inspirations. Par exemple, pour en citer un à la con comme ça.
Bah, je me souviens qu'on avait parlé dans ce cadre-là de Kuro, par exemple.
Oui, Kuro, exactement. Qui est symptomatique de.
Ben voilà, enfin il y a beaucoup de jeux de rôle traditionnels se reposaient sur les sources d'inspiration pour montrer, révéler l'esprit de leur univers.
Ouais.
Voilà, l'esprit de l'univers. On ne parlerait pas de l'esprit du jeu.
Qui était un peu des clés directes pour rentrer dedans.
Voilà, exactement.
Tu vois, par exemple, Deadlands, tu dis ouais, bah c'est du western avec supplément tentacule. Donc,
ouais.
Voilà, Western Cthulhu.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut citer?
Spaghetti,
L5K, Samurai Fantasy, machin. Mm. Quoique L5K, je suis sûr.
Anima. Regarde Anima, par exemple. T'as des dessins.
Anima, il citait même Final Fantasy dans le pitch du jeu. Enfin, bref. Et du coup, c'est le moment de parler de Trip to Sky. Alors, Trip to Sky, pour resituer un peu les gens qui connaissent pas, c'est un jeu où on incarne. Des héros vaillants, des démons qui vont parcourir des mers de nuages, partir à la découverte de secrets sous l'œil bienveillant de leur déesse au centre du monde qui les contemple, etc. Et vous voyez, quand Romaric me faisait le speech du jeu...
Ouais. Donc à savoir que c'est aussi un de mes jeux, hein, c'est des fois que vous débarqueriez... Voilà.
Ah ouais, c'est les chevaliers du Zodiac avec des bateaux, quoi.
Sans ce bateau,
ouais,
c'est
bateau.
La citadelle qu'on salue au passage. Salut les Bouddhis.
Pour une note, moi j'ai lu, au terme de ma fatigue, j'ai lu Sans Marx à la place de Sans Mort.
Pourquoi Marx?
Pourquoi Marx?
Non mais. Et donc du coup, tu te dis, ouais, pas tout de suite les chevaliers du Zodiac.
Ouais, en fait, ça m'a. En fait, il y a un chapitre source d'inspiration dans Trip to Sky pour un peu plus connaître l'esprit du jeu.
Ouais.
Toutes les références, je me suis dit, oui, c'était évident. Mais pourtant, j'ai pas l'impression qu'on me vend un truc générique quand je lis tout ça et je me dis qu'il y a une identité forte, marquée. Pareil pour Vadémécom, parce que Vadémécom, un truc qui est fort, c'est que la musique de Parasite Eve, maintenant dans la tête des gens qui connaissent, c'est la musique de Vadémécom, vous savez, le petit air de piano.
Ouais. On le mettra si tu veux, en fond.
Ah. Bonjour, Inspecteur King.
Et ouais, effectivement, tu vois. Ouais, ça, c'est
Sens,
sûr.
Pareil. Quand tu dis que dans les inspirations de Sens, il y a Metroid, je fais, mais oui, c'est évident. Et même si j'ai jamais joué à Metroid et tout, quoi. Enfin, et je sais pas, en fait, comment tu expliques cette maîtrise dans tes jeux, dans celle d'autres auteurs. Je pense par exemple à Monostatos, même comme, si on t'explique Monostatos comme ça, est-ce que tu as pensé à Conan tout de suite si tu ne cites pas explicitement Conan, tu vois, si...
Non, effectivement, je ne pense pas à Conan tout de suite. Monostatos, quand j'ai joué la première fois, j'ai dit ça me fait beaucoup penser à God of War. Tu me diras, on est pas loin, quoi.
God of War avec de la poésie.
Bah, c'est ça, ouais. Un God of War poétique. Ouais, mais voilà, c'était à ça que ça m'avait fait penser la première fois, je crois. Dans mon souvenir, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Monostatos. Mais si, Nietzsche était pas très loin quand même.
Ouais, Nietzsche était pas très loin, mais... Est-ce que c'est le truc direct auquel tu penses, tu vois, ou...
Non, effectivement.
Voilà, je voulais savoir ton retour par rapport à cette question, si t'avais des choses appréciées à dire. En espérant que tu ne réponds pas, bah, il faut être talentueux et puis c'est tout.
Non. En fait, le délire de comment moi j'utilise les... Alors, j'ai eu plusieurs phases par rapport à ça. Mmh. Dans un premier temps, pour ce qui est de sens, on est donc juste après la création des Chevaliers Zodiac, donc mon premier jeu de rôle amateur des Chevaliers Zodiac.
Le fameux,
dans lequel j'essaye de vraiment poursuivre la série à travers le jeu de rôle. C'est-à-dire que le jeu de rôle va être un outil de poursuite d'une fiction particulière qui va être les Chevaliers Zodiac. Et je vais essayer de poursuivre comme ça. Donc le jeu de rôle, dans ces cas-là, l'inspiration, elle sert de starter, en un sens. Voilà. Ouais. Tu regardes la série... Ça te donne l'idée originelle, enfin, je ne sais pas comment dire, l'esprit, voilà, de la série. Tu as les musiques, tu as tout ça, tu as le starter, tu as le démarrage pack pour faire tes propres scénarios de Saint Seiya. Donc au départ, l'inspiration me sert à expliquer le canon esthétique du jeu. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est qu'en fonction du type de jeu de rôle que tu vas vouloir faire, les inspirations n'auront pas la même place et le même rôle. Une inspiration, c'est toujours un objet qui est inspirant pour la direction artistique du jeu. C'est-à-dire qu'il va te dire dans quel sens créer. Si on reprend l'idée du Maelstrom, que le jeu de rôle, c'est faire des propositions tous ensemble, ici, maintenant, ce soir, pour créer un contenu fictionnel malléable. Quand on fait des propositions, on ne sait pas immédiatement quelles propositions vont être gardées et pertinentes, quelles propositions vont être invalidées. Si tu as une inspiration, une source d'inspiration, eh bien, ou des inspirations, ça te donne tout de suite une espèce de grille d'élimination, de sélection des idées, lesquelles sont pertinentes, lesquelles ne le sont pas. Par exemple, tu vois, on cite souvent cet exemple-là, c'est l'exemple de Star Wars. Une fois que tu as vu les deux premières trilogies de Star Wars, qu'on ne regarde pas la troisième, et une fois que tu as vu les deux premières trilogies de Star Wars, ou mettons, allez, uniquement la première, si vous êtes vraiment un puriste comme moi, la 4, 5, 6, voire même si vous vous contentez de l'épisode 5, 6, ou je sais pas, tu vas pas vraiment... Si tu réduis à la quintessence même de Star Wars, tu vois, le « je suis ton père », l'affrontement du père contre le fils, la force expliquée par Yoda, machin, tu vois, ça te donne un ensemble de choses pertinentes pour Star Wars. Par exemple, on sait que dans Star Wars, on peut jouer des extraterrestres, what the fuck, ça pose pas de problème. Qu'il y a des sabres laser uniquement quand on est un Jedi, mais on n'a pas trop le droit de guider un sabre laser si on n'est pas un Jedi, puisqu'on n'a pas la force. Ça te donne un certain nombre comme ça de propositions qui vont t'aider à créer de la fiction dans le sens de Star Wars, dans le canon esthétique de Star Wars. Donc ça, c'est pour bien préciser. Donc le premier élément de l'inspiration, c'est un élément de direction artistique. On va faire une fiction à la Chevalier du Zodiac, à la Star Wars, à la Harry Potter, etc. etc. Ça, c'est un premier élément. Donc, une fois qu'on a dit ça, ben, évidemment que dans un jeu, dans la mesure où le but d'une base de jeu de rôle, c'est de dire quelles sont les propositions pertinentes pour le contenu fictionnel malléable, dans quel sens on doit le créer, quelle est la direction artistique que les joueurs, joueuses autour de la table doivent suivre quand ils créent leur contenu fictionnel malléable, bah, citer ces inspirations, c'est la base, en fait.
ça permet immédiatement de se dire ça c'est match. Ça on pourrait le voir dans Blade Runner, ça on pourrait le voir dans je sais pas quelle autre fiction, dans Harry Potter, donc c'est bon, c'est validé, tu vois. Donc ça c'est un premier élément. Donc moi en fait, au fur et à mesure de mes pérégrinations, j'ai appris depuis Saint Seiya à utiliser les inspirations comme ça. Et puis il y a un dernier élément qui est plus propre à Sens pour ce qu'il s'agit, pour les inspirations de cet ordre-là, c'est des inspirations de l'ordre de la représentation. C'est-à-dire que pour expliquer ton univers, il est beaucoup plus simple de faire appel à des choses qui sont déjà connues plutôt que de créer ex nihilo des objets. Par exemple, créé l'armure que portent les bugs dans Sens, ça aurait été beaucoup plus fastidieux s'il n'y avait pas eu Metroid pour servir d'inspiration. Bon, voilà, c'est une armure comme dans Metroid, parce que j'avais besoin de son hermétisme, j'avais besoin de plein de choses comme ça. Donc du coup, bah, je cite Metroid comme source d'inspiration pour se représenter des entités fictionnelles. Et ces entités fictionnelles que vous représentez vous serviront ensuite de direction artistique. Mais ça, c'est, tu vois, là, c'est en deux étapes.
Ouais.
On fait pas un jeu de rôle à la Saint Seiya, à la Harry Potter, mais on va se servir des sources d'inspiration pour créer une chimère qui, elle, deviendra le canon esthétique du truc. Donc, les inspirations comme source de représentation de l'univers. Et enfin, et là, c'est beaucoup plus complexe. Et là, franchement, il faudrait que je travaille un peu plus le sujet pour te présenter le truc. Il y a deux autres types d'inspiration qui sont majeurs et très importantes à souligner, mais pour d'autres raisons. La première, c'est d'où te viennent tes mécaniques. Alors ça, c'est très compliqué de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que, par exemple, dans Trip to Sky, je dis... vous prenez les dés comme dans Innomable de Christophe Buckley.
Ouais.
Etc. Parce que pour moi, c'est important que les mécaniques qui ont inspiré Trip to Sky et qui sont quasiment... franchement, la manière dont on prend les dés dans Trip to Sky, c'est la façon dont on prend les dés dans Innomable. Ni plus, ni moins. Il n'y a pas... Voilà. Dans Innomable, on les prend... pour décrire des visions d'horreur dans des contextes particuliers. Dans Trip to Sky, on les prend pour résoudre des problèmes. Mais il y a ce côté de prendre le dé, donc de prendre la parole, donc de prendre la narration, etc., etc. Et c'est important de citer le jeu qui l'a inspiré, parce que pour quelqu'un qui ne comprendrait pas la mécanique, mais qui aurait joué à Innomable par ailleurs, immédiatement, hop, ah ouais, c'est comme dans Innomable. Alors, Innomable, c'est peut-être un jeu... un peu plus de niche dans l'indépendance francophone, mais quand tu dis c'est comme dans Prosopopée, quand tu sais que 100% des gens qui jouent à mes jeux ont déjà joué à Prosopopée, lu Prosopopée, connaissent Prosopopée, bah on gagne du temps. Et puis ça permet aussi quand même, par exemple quand je cite les règles de révélation dans Vademecum et que je dis bah, c'est comme dans Sphinx, je dis bah voilà, ça permet aussi de, quand même de rendre à César ce qui appartient à César. Et de dire, voilà l'auteur qui a eu l'idée de cette mécanique-là. Allez voir son travail par ailleurs, parce que si cette mécanique vous intéresse, vous allez aussi aimer le jeu. Donc, c'est aussi dans une... Il y a plusieurs choses là. Tu cites ton inspiration pour aider à la compréhension de la mécanique, mais aussi pour ouvrir...
les propositions qui seront pertinentes.
Exactement. Alors voilà, exactement. Si tu as déjà joué au jeu, ça, c'est un deuxième élément auquel je n'avais pas pensé, mais effectivement. Et un troisième élément, c'est aussi pour open your mind, ouvrir les perspectives, ouvrir l'esprit des joueurs qui jouent autour de la table, de se dire... bah, si j'ai bien aimé ça, j'aimerais ça aussi. Et d'aller voir les jeux... Alors, on dit les jeux des copains. Voilà, c'est une manière de faire de la pub déguisée. Non, pas du tout. C'est même si, effectivement, c'est que des jeux, par ailleurs, d'auteurs que je respecte et tout, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le cadre de la cellule et compagnie. Mais l'idée, c'est pas de vendre les jeux des copains. C'est pas une idée commerciale derrière. C'est une idée d'aller voir les origines des mécaniques pour en comprendre les enjeux et éventuellement pouvoir les réutiliser dans vos propres jeux d'une façon pertinente ou au contraire de les twister, de les transformer justement, etc., etc. Donc ça, c'est une autre manière de voir l'inspiration. Et la dernière, et là, c'est celle sur laquelle il faudrait un plus grand développement, c'est les inspirations philosophiques de sens. Où là, voilà, là, c'est très compliqué. C'est-à-dire que dans Sens, je cherchais à faire en sorte d'illustrer par exemplifier des théories philosophiques à travers des fictions, donc créer ce qu'on appelle de la philo-fiction.
Ouais.
Voilà, donc ça c'est un truc vraiment très très particulier. Et là, j'avoue que c'est un peu comme la documentation. Du coup, l'inspiration, c'est aussi la documentation. C'est je veux faire un jeu sur une thématique historique, par exemple sur la Première Guerre mondiale. Il faut que j'aille lire des livres d'histoire sur la Première Guerre mondiale à minima. Et puis, si possible, c'est encore mieux, des livres d'histoire qui ne soient pas factualistes, mais des livres d'histoire qui sont plutôt hérités de la tradition Marc Bloch, effectivement, sur la sociologie des gens qui ont traversé la Première Guerre mondiale, sur les enjeux sociaux qui étaient les leurs à ce moment-là. Parce que, comme on l'a bien montré, je pense, avec Guillaume Melin dans le podcast sur l'histoire, et dans un podcast d'après, d'ailleurs, où on avait carrément trouvé un exemple, en fait, dans un jeu de ça, eh bien, ce qui intéresse pour le jeu de rôle, c'est moins les faits historiques que le bouillon de culture sociale.
L'esprit, ça fait la quintessence des.
C'est ça, dans lequel l'événement s'est produit. Ouais, le bouillon de culture, ouais, l'esprit historique à ce moment-là, je sais pas. Bon, c'est un peu dangereux de parler d'esprit de l'histoire parce que ça convoque Hegel et on n'aime pas convoquer Hegel. C'est très dangereux. mais voilà. En tout cas, il y a, on voit bien comment l'inspiration, c'est dire d'où on vient. Et en un sens, de dire d'où on vient, ça permet de mieux comprendre ce qu'on a sous les yeux et le propos qu'on est en train de dire. Et c'est aussi de l'honnêteté.
Oui, bien sûr.
C'est aussi de l'honnêteté. Mais est-ce que c'était ton sujet ?
Je pense que jusqu'à là, tout ce que tu as dit, j'y ai plus ou moins réfléchi de manière avancée ou pas. Et effectivement, l'honnêteté, ça permet d'éviter des trucs du genre Kuro.
Mais Kuro, c'est très honnête.
Pas tant que ça, parce que j'ai l'impression qu'on te vend un truc super. Enfin, quoique, c'est vrai qu'ils mettent leur inspiration.
C'est juste le système de résolution qui était pété au sol.
Tu vois, quand la manière dont vous parlez de Kuro, après, je sais pas, j'ai pas lu, mais on dirait vraiment un truc du genre vous avez vu les films et tout, bon, allez, faites tourner votre cerveau et inventez-nous un jeu là-dessus, quoi.
Ouais.
Alors
on parle de Kuro avec Pierre parce que c'est un des plus gros shitstorms de la cellule.
Ouais, oui, voilà, puis j'en aurai 9 foutre au moins.
Non, mais voilà, donc c'est pour ça que le jeu, on en parle ici. Mais...
J'ai bien conscience intellectuellement de ce que tu m'as dit, mais quand je regarde Trip to Sky, je vois plus que les inspirations, tu vois.
Ah, mais c'est normal, la somme de toutes les inspirations ne fait pas. La somme de toutes les inspirations, elle fait émerger une proposition nouvelle. C'est normal, ça.
Ouais, mais
c'est pas évident.
À partir de quel moment ça arrive, cette espèce de petite magie, tu vois. Et c'est ça la question, parce que j'ai l'impression qu'il y a dans le jeu de rôle tradi la culture de l'illustration, etc. C'était pour essayer de compenser cette espèce de manque que. Enfin, je dis que, attention, hein, bien sûr, pour les auditeurs, il y a des jeux de rôle tradis qui ont bien sûr des univers très
on pense à
émergents,
Agon, ouais, il y a Shan.
Shan Renaissance, hein, excellent Shan Renaissance.
Ouais, ouais.
Mais tu vois, il y a des jeux de rôle un peu carte postale au sens de Tiramisu. Je renvoie les auditeurs à écouter ça.
Ouais.
Où tu sens que les illustrations, et, etc., et les concepts qui sont développés dans un univers ne sont pas homogène, il manque une cohérence interne, il manque une espèce de continuité dans la direction artistique, dans la continuité thématique. C'est souvent aussi le problème avec les problèmes de système de jeu et de résolution qui sont contre-productifs à l'univers, même si je trouve que depuis des années, même dans le circuit, dans le marché traditionnel, il y a beaucoup plus d'efforts de réflexion à ce propos. Excuse-moi, si je pars dans tous les sens, j'ai pas de notes, non, mais j'ai la fleur au fusil.
Est-ce que tu veux un papier pour prendre des notes éventuellement?
C'est fini, c'est perdu, Marie.
D'accord. Okay. Non, mais c'est intéressant cette histoire de cohérence.
Par exemple,
tu tournes autour d'un truc intéressant.
Pour citer un jeu que j'adore et que je reconnais plein de défauts, Westland, les terrains gâchés des départements du sombre projet, je le trouve symptomatique de ça. J'aime beaucoup cet univers et je pense que, comme beaucoup de rôlistes font, j'essaye d'y trouver une profondeur que peut-être le jeu n'a pas, mais que moi je cherche. Mais c'est vrai que Westland, quand on lit le background, c'est quand même un amoncellement de trucs, quoi. Un amoncellement de trucs, et j'ai du mal... Enfin, quand je vois les trucs, je me dis, oui, tradition du post-apo, hop, mais mélange avec la culture arthurienne. Puis il y a des psychers, ça fait un peu penser à Warhammer. En plus, tu sais, dans les peuples jouables, t'as des hommes rats. Enfin, tu vois, là, ça saute aux yeux, tu vois. Tu te dis, il y a un problème
de... Il y a une somme. C'est comme si on avait additionné des univers entre eux, mais que l'opération n'était pas... Moi, j'ai envie de transformer ça en opération mathématique. Dans les mathématiques, donc, vous le savez, on peut faire des additions de multiplication. Donc, typiquement, 2 fois x, ça fait 2x. 3 fois x, ça fait 3x, etc. Et on peut additionner 2x plus 3x, ça fait 5x. Et pourquoi on peut additionner 2x et 3x pour faire 5x ? C'est qu'en fait, les entités, les quantités de x, puisque ce sont des x, peuvent s'additionner entre elles. Mais comme on dit, on n'additionne pas les torchons et les serviettes. C'est-à-dire que si c'est 2y plus 3x, eh ben, à la fin, l'opération, ça donne 2y plus 3x. Et on n'a rien ajouté. Ben là, c'est exactement ce que tu es en train de nous dire avec les univers. C'est-à-dire qu'en gros, tu trouves que dans certains jeux, les sources d'inspiration viennent s'ajouter, mais comme elles n'ont pas de point commun ou comme elles n'ont pas un espèce de tronc commun que tu appelles la cohérence interne, là en l'occurrence en référence, j'imagine, aux réflexions de Frédéric Saint-Est sur...
Ça, c'est une partie du travail de Frédéric que je ne connais pas trop.
Okay, bah, peut-être qu'il n'a pas écrit là-dessus spécifiquement, mais moi, c'est un des concepts de Frédéric que je retiens particulièrement. J'ai eu l'occasion sur l'émission, d'ailleurs, formidable série d'émissions radio-rôlistes suite au décès de Frédéric Saint-Est, qui ont publié une série d'entretiens de toutes les personnes qui ont connu Fred, etc. Donc, et effectivement, il nous demande à un moment donné, Mathieu Léomard, que je salue au passage, qui a fait un travail extraordinaire. Et donc, à un moment donné, il demande quels sont les concepts de Fred que vous retiendriez. Et ça fait partie des concepts que moi je retiens, mais je sais pas s'il a fait des. Je pense qu'il a dû faire des articles là-dessus, évidemment. Mais ça ne dit rien comme ça. Alors, donc voilà, donc la cohérence interne. Ok, donc ce que je disais, donc, c'est que il ne suffit pas d'ajouter des morceaux d'univers ensemble pour faire un univers cohérent. Même parfois, ça peut être l'inverse. Nous, on avait eu le problème dans Anima. Alors, je ne connais pas le jeu du département des sombres projets dont tu parles, mais moi, je ne connais pas Anima. Dans Anima, tu as des moines Shaolin, tu as plus des, je sais pas, des samouraïs, plus des... Donc, en fait, c'est des morceaux d'histoire qui viennent de pays complètement différents. Qui viennent s'additionner dans un même univers. Or ça, c'est pas possible parce que chacun de ces morceaux d'histoire vient de cultures différentes. Enfin voilà, il faudrait
et qui repose sur une vision probablement stéréotypée occidentale qui passe à côté de certains points très très importants.
Et ça, tu le sais mieux quiconque en tant que.
Alors mieux que quiconque, j'ai encore beaucoup appris à ce sujet, mais bon, problématique d'orientalisme, tout ça.
Ouais, c'est sûr. Donc, en tout cas, voilà, tu vois, tu te retrouves avec un univers qui est finalement une somme d'inspiration. On a l'impression que c'est un attrape-tout, c'est-à-dire que comme ça, les gens qui aiment bien les moines Shaolin, ils vont pouvoir jouer ça. Les gens qui aiment bien les samouraïs, s'ils veulent des samouraïs, vous voulez des samouraïs, on vous en met deux, etc. Et c'est un peu ce qu'on avait condamné avec l'histoire de la boîte JDR.
Ah, ça c'est excellent.
Okay.
Allez faire un tour sur la boîte à JDR et créez-nous les meilleurs jeux.
Voilà, c'est ça, qui a un système en fait dans lequel on clique et puis ça fait un jeu, par exemple, cowboy samouraï dans
des
l'espace.
Des dinosaures ninja dans une dystopie néolibérale.
C'est ça. Et donc, il y a un côté comme ça, patchwork. Et donc, sans cohérence, sans tronc, etc.
Après...
sans dénominateur commun.
Après, ça n'empêche pas de créer des jeux très sympas. Comme je l'ai dit, moi j'adore Westland et je trouve qu'il y a des idées... quand même folle qui émerge dedans, mais je pense qu'on, enfin, à titre personnel, pour le bien du média, je pense qu'on a besoin d'univers bien cadrés, bien de, enfin, c'est des jeux qui attrapent cette quintessence et qui ne sont pas que des référencements à d'autres choses,
des catalogues de références, tu dirais.
Jérôme, il aime bien parler de ça avec le côté les geeks aiment bien, tu sais, dire qu'ils reconnaissent telle ou telle référence et tout, que c'est un petit jeu dans la culture. Il y a un peu de ça aussi.
Une célébration des références.
Je pense qu'il faudrait que média, qu'il y ait des œuvres un peu uniques qui émergent du média, comme les jeux que j'avais cités au début, donc Trip to Sky, Monostatos, etc. Je suis désolé si je pars dans tous les sens.
Non, mais je réfléchis en fait à qu'est-ce qui fait que la sauce prend. Il y a un côté comme ça, il y a un côté un peu magique, mais en fait, c'est pas si magique que ça. Moi, je pense qu'il y a,
j'ai quelques hypothèses.
Ouais, vas-y.
Déjà dans tes jeux à toi, j'ai remarqué quand on te demande ce que t'as voulu faire avec Sens ou Vademecum ou Trip to Sky, tes réponses sont très variables en fonction du moment, etc. Quand t'avais demandé pour Trip to Sky une fois, t'avais dit je voulais faire un jeu sur la confiance en soi, puis une autre fois je voulais faire un jeu sur l'expérience que ça fait de traverser les nuages et tout. Et je pense que c'est ces multiples points d'ambition, de désir de créer quelque chose,
ouais. L'intention,
qui se regroupe dans ce flux et qui teinte les inspirations qui font émerger quelque chose d'autre, je pense.
Et ce serait quoi ? Ce serait la cohérence entre ces différentes intentions ?
La cohérence des intentions, le fait de savoir adapter les éléments esthétiques qu'on a pris ça et là. Je pense qu'il y a de ça un peu.
Et en fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est que finalement, ce qui fait... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ce terme, mais c'est le propos, en fait, qui fait la colonne vertébrale.
Mais dans tes jeux, les propos sont très multiples, je trouve, justement. Sens, j'aurais du mal à le résumer à un propos. À part peut-être déconstruisez vos déterminismes pour devenir libre, et encore... Est-ce qu'il y a que ça dans le sens ? Je ne pense pas. Quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est compliqué.
Même si je pense qu'effectivement, on peut plus orienter les jeux vers un propos qui semble plus être un fil directeur pour l'œuvre, c'est sûr.
Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un côté inspiration maîtrisée, inspiration non maîtrisée, tu vois. Bon, d'abord, il y a un côté commercial aussi. C'est-à-dire que dans les jeux qui agrègent les univers comme ça, bêtement, c'est juste des attrapes. Si vous aimez ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est un premier élément. Donc, en fait, ces univers n'ont pas d'intention. Ils ne veulent rien dire, en réalité. Il n'y a pas une intention sous-jacente. Parce que le problème, si tu veux, c'est que tu dis oui, tu réponds des choses différentes. Mais traverser les nuages, pour moi, et s'envoler vers les nuages, et prendre confiance en soi, et avoir la foi...
Ouais,
c'est la même chose. Enfin, tu vois, en un sens, c'est pas
ça
que
se recoupe. C'est
pas que ça se recoupe, mais c'est que c'est c'est la même chose vue sous des angles et des prismes différents. Dans un cas, on parle des actions que me permettraient de réaliser ma confiance en soi. Dans un autre, on dit que ma confiance en soi est liée à ma foi, que ma foi pourrait me permettre un jour de m'envoler vers les nuages. Enfin, tu vois, etc. Et ça prend tout son sens quand on est judéo-chrétien ou etc. Tu vois. Donc. Quand on est issu d'une culture judéo-chrétienne, c'est clair que traverser les nuages pour monter vers les cieux et machin, on voit tout de suite les démons et tout avec les ailes, le côté de la, d'ailleurs la chute de Lucifer qui est sur la couverture. Ouais. Enfin, tu comprends tout de suite quoi, que tu es dans un truc sur la foi. Et en fait, c'est... Pourquoi est-ce qu'on fait des jeux de rôle ? Enfin, pourquoi est-ce que moi, en tout cas, je fais des jeux de rôle ? Je sais pas les autres, mais... Clairement, moi, c'est parce que j'ai des choses sur le cœur à dire que j'arrive pas à dire avec des mots. Et donc, j'ai besoin d'inventer en fait un cadre. Certains disent poétique, moi, je dirais un cadre ludique dans lequel mes idées vont se développer et vont vivre. Parce que on n'a pas les mots, parce que quelque part, une phrase, c'est un état de choses mort, une nature morte. Chaque proposition est une nature morte. Ce qui rend les propositions vivantes, c'est la façon dont les gens vont s'en saisir ensuite.
Le contexte, le moment dans la vie.
Voilà, et surtout, quelle autre proposition va suivre ? Le poème est vivant tant qu'il n'est pas fini, tant qu'il n'est pas écrit, tant qu'il n'est pas arrêté, tant qu'il n'est pas parfait, au sens grec du terme. Et donc, l'inspiration, c'est ce qui va... Quand on dit c'est une direction artistique... C'est un souffle. C'est un moteur.
Ouh, un souffle.
Et oui. Donc, c'est ça. C'est l'idée. C'est une force motrice, l'inspiration. C'est un endroit dans lequel on va puiser de l'inspiration. D'ailleurs, l'inspiration, c'est un mouvement respiratoire. C'est l'inspiration. Il faudrait voir ce que c'est après l'expiration de ce point de vue-là.
C'est quand on, quand on a dépassé peut-être nos aspirations et faire quelque chose de nouveau. Quoi. C'est...
Ouais.
Après qu'il est maturé.
C'est le souffle engendré par, par le résultat de ses inspirations. Je ne sais pas. C'est marrant parce que tu vois, il y a quelque chose de vivant là-dedans. Et donc le propos est vivant, l'intention est vivante, elle est mouvante, elle évolue forcément. Parce que si j'avais les mots pour pouvoir dire ce que je voulais dire dans mes jeux, bah, je les dirais et ce serait terminé. Or là, ce n'est pas ce que je fais. Je vais faire un jeu pour m'exprimer. Donc forcément, tu vois, c'est pas aussi simple qu'une phrase à faire. Donc quand on me demande quelle a été mon intention, bah, j'essaye de donner des idées, mais... Je peux pas résumer.
Quelle était votre intention ? Jouer à mon jeu.
Ouais, voilà, c'est ça. Sinon, tu dis ça, ouais, éventuellement. Puis ça, c'est intéressant. Il y avait des. J'ai vu l'autre jour, j'ai vu une vidéo d'Al 236 sur Beczynski, qui est donc un auteur de. Un peintre. Et donc, il avait cette idée que, en gros, on ne devait pas. Il avait interdit, en fait, enfin pas interdit, mais il avait posé une espèce de condition sur la façon dont on parlait de ses œuvres, dire, bah voilà, il ne faut pas employer des mots, on n'a pas le droit de... Je ne veux pas qu'on analyse mes œuvres avec des mots, tu vois, en un sens, il essaye de, comme ça, de verrouiller un peu, en tout cas, pas avec une analyse rationnelle, tu vois, qu'on puisse juste... Et donc, Al 236, dans sa vidéo, essaye de décrire un voyage poétique, de décrire en fait les œuvres ou d'avoir une analyse de l'œuvre de Beczynski avec des propositions poétiques. Au lieu d'analyser les choses comme il le fait d'habitude en étudiant l'histoire de l'œuvre, son impact dans la société, etc. Il décrit aussi beaucoup les émotions que l'œuvre lui provoque par ailleurs, mais il va décrire en fait de façon poétique, le truc, de façon à respecter l'intention de l'auteur. Et en fait, quelque part, on devrait toujours faire ça. Et ce que tu viens de dire, ben, plutôt que de parler de Trip to Sky, on devrait y jouer. C'est fondamental. Et là, de la même manière, Beczynski, ce qu'il dit, bah, plutôt que de parler de mes œuvres, regardez-les. Et voyager en elles. C'est une invitation au voyage, etc. Et donc, du coup, nous dire pourquoi les inspirations font somme autour d'un propos, pour pouvoir le montrer bien, il faudra avoir un propos clair et puis regarder comme les inspirations vont dans le sens de ce propos-là, etc. Et c'est ce qu'on essaye un peu de faire, d'ailleurs, dans les one-shots. De montrer en quoi, voilà, vu le propos de l'auteur, toutes les mécaniques dont il s'est inspiré, tous les univers dont il s'est inspiré, sont match, on dit d'ailleurs souvent, enfin, sont cohérentes, ouais. Sont adéquates, sont bien placées pour exprimer ce qu'il avait envie d'exprimer. Donc, et c'est ça qui fait que, à mon avis, et donc c'est la cohérence interne. Mmh. C'est l'idée qu'il y a quelque chose dans l'œuvre qui fait cohérence, qui fait sens, qui fait que toutes ces œuvres mises ensemble entrent dans une relation, une espèce de danse, une espèce d'harmonie qui va engendrer une nouvelle œuvre qui elle-même pourra entrer en harmonie avec d'autres travaux, etc. Oui. etc.
Oui, parce que bien sûr, je ne pense pas qu'on puisse créer quelque chose ex nihilo de toute façon. Il faudrait être un être complètement vide de toute culture et en même temps d'une sensibilité incroyable pour créer des choses qui n'existent pas déjà quelque part. Quoi.
C'est le principe de la chimère de Descartes, c'est que quel que soit le monstre que l'on crée, il est toujours composé d'autres monstruosités puisées dans la mythologie.
Il en dit des trucs intéressants, Descartes, dis donc.
Il y a d'autres choses aussi, c'est que on avait noté avec Christophe Buckley, notamment sur le cas Mechanical Dreams, que c'est extrêmement difficile. Quand vraiment tu décris un monde imaginaire qui est tellement étrange que tu n'as pas les références pour comprendre les mécanismes, la façon dont les créatures survivent. Tout est étrange dans Mechanical Dreams. Il n'y a pas un truc qui te rattache à la réalité, tu vois. Même les plantes, elles se nourrissent de façon bizarre. Les gens, ils ne parlent pas comme on parle. Donc, en fait, c'est extrêmement difficile de rentrer à l'intérieur du jeu, C'est-à-dire que tu peux pas, si quelqu'un était capable de créer quelque chose ex nihilo, comme tu le dis, eh bien alors ce quelqu'un ne serait pas compréhensible.
Mmh, oui, bien sûr.
Il faut toujours s'inscrire dans une histoire, une continuité. Voilà, les nains sur les épaules de géants. Il faut toujours être un nain sur l'épaule d'un géant. Si vraiment, enfin, rien ne se crée de rien, et quand bien même il pourrait se créer quelque chose de rien, la chose ne serait pas comprise et ne serait pas même compréhensible, je pense. Donc, une des conditions de possibilité de l'existence d'une œuvre, c'est la compréhension par ses contemporains, c'est-à-dire que ses contemporains puissent poser les yeux sur elle et la comprendre. Or, cette compréhension n'est possible que si, par ailleurs, en fait, ces individus ont la culture pour la comprendre, les mots pour la comprendre, etc. Il y a des exemples aussi là-dessus, le Codex Serafinianus, toutes ces histoires de livres en fait, qui sont écrits dans des langages qui ont été inventés par un auteur et dont il n'a pas donné les clés et qui aujourd'hui encore restent indéchiffrés. Et je ne parle pas de langage qui serait juste à la place d'un A, on a mis un autre symbole, comme serait le langage dans Star Wars. Tu sais, dans Star Wars, il y a une espèce d'alphabet qui est juste en fait une reprise de l'alphabet américain et donc qui va être mise à droite à gauche. Donc une fois qu'on a décrypté l'alphabet, on voit qu'en fait, ah bah non, ces gens parlent américain en fait, derrière un alphabet caché, etc. Ça, c'est, je ne te parle pas de ça, je te parle de gens qui ont vraiment inventé un langage et des symboles. Et qu'on fait des codex, tu connais ça, le Codex Serafinianus,
je crois.
Le livre, il y a plein de livres comme ça.
Et ça me dit quelque chose, je pense qu'on en a déjà entendu parler.
Et donc, tu vois, ce sont des bouquins, en fait, qui viennent de nulle part. On n'a pas les clés, ils parlent d'entités qui n'existent pas, donc on peut pas...
C'est le Necronomicon, mais de la vraie vie, quoi.
Bah oui, puis ça montre que si on n'a pas l'origine, l'explication, les clés d'analyse, donc les inspirations en un sens des choses, on ne peut pas les comprendre. Juste, on ne peut pas juste les comprendre, quoi. Mais clairement, c'est ça, c'est ce propos-là qui transparaît, qui va faire sens, qui va rendre en fait cohérentes les œuvres ensemble. Et puis maintenant, il y a une question que j'ai envie de soulever, c'est par rapport aux IA.
Ah, les fameuses IA.
Les fameuses IA. Parce que là, du coup, on se retrouve confronté à des objets qui sont capables de produire des œuvres, des peintures, des musiques, etc., en puisant dans des sources d'inspiration sur le net, qui sont innombrables, et de produire des œuvres sans qu'il y ait de propos. Parce que l'IA n'a pas de propos. C'est pas possible. Elle n'a pas vécu. Ou alors, il faudra montrer la singularité et dire effectivement, cette IA n'est pas uniquement une imitation conversationnelle, mais vraiment fait émerger des choses nouvelles, etc. Enfin, je sais pas exactement. Je connais pas les enjeux sur la singularité. Enfin, je connais pas. C'est pas un thème que j'ai travaillé là pour ce sujet, mais. Okay. Mais tu vois, l'idée, c'est que il y a ici, par exemple, dans les œuvres qui sont produites par des IA comme Dali, comme Bombart et tous ces trucs-là, il y a. On y met un peu la cohérence qu'on veut, mais il y a une forme de cohérence. Moi, ça me fascine, ça.
Ouais.
Mais l'IA est-elle capable de donner ses sources d'inspiration? Et finalement, est-ce que c'est pas la différence entre. Une IA et un auteur de peinture. C'est que l'auteur de peinture est capable de situer sa peinture dans un contexte socio-culturel, dans une histoire en fait, de l'art, alors que l'IA, elle, se contente uniquement, un peu comme un perroquet, de prendre tout ce qui marche à un moment donné et d'en faire un melting pot.
En fait, ce serait... comment on pourrait synthétiser ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est que pour cette question de l'inspiration, il y a déjà un travail d'intellectuel de savoir... dans quelle tradition on s'inscrit dans nos inspirations, comment on les fait coexister, ainsi que tous les problématiques qui peuvent être liées. Et c'est ce travail actuel rencontrerait notre sensibilité, en gros.
Ouais, c'est ça.
Alors que une IA serait capable d'un travail technique exceptionnel, mais y a-t-il quelque chose de plus, l'étincelle derrière ça, quoi?
Eh ben en fait, c'est toujours pareil. Après, il existe des façons de se servir des dessins, des illustrations faites par les IA qui, elles, par contre, sont chargées d'attention. Imaginons que je veuille, par exemple, faire un travail sur la mort. Je peux tout à fait demander à une IA de peindre des tas d'objets avec le mot-clé « mort ». Et en fait, de sélectionner parmi 120, 200, 300 illustrations, les 6 illustrations qui vont pour moi représenter la mort. Et là, du coup, en fait, je fais un travail artistique de sélection. Tu vois, c'est un peu comme les entreprises d'art contemporain, la Jackson Pollock ou tout ça comme ça, où tu fais un peu n'importe quoi. Excuse-moi, c'était un peu dégueulasse de dire ça, mais tu fais un peu n'importe quoi sur une toile. Et en fait, quand à un moment donné la toile te semble signifiante, tu la sélectionnes. Là, c'est pareil, sauf que tu demandes à une IA de te, c'est un peu ta catapulte, ta peinture ou ta, tu vois, tu demandes à une IA en fait de faire un peu n'importe quoi. Et puis au bout d'un certain moment, tu dis bah ça c'est match, ça me va, c'est bien. Et dans ce cas-là, l'IA devient juste une nouvelle brush. d'Adobe là, tu vois, de Photoshop, tu vois, c'est devient juste une nouvelle brush, quoi, une nouvelle en fait l'artiste ce n'est plus l'IA, mais c'est celui qui choisit de sélectionner les dessins parmi les 300 de l'IA
et qui a mis sa sensibilité
à voilà, exactement. Parce que là par contre, est-ce qu'une IA est capable de faire une sélection de 6 œuvres pour un livre donné? Elle est certainement capable de produire 6 œuvres sur la base des textes livrés dans un livre. Ça, c'est évident. Évident, je l'ai vu faire, ça marche très bien. Mais elle n'est pas capable de sélectionner l'œuvre qu'elle préfère, l'œuvre qui semble le mieux donner son intention, etc., etc. Donc, en fait, derrière la source de l'inspiration aussi, il y a l'idée que l'inspiration, ce n'est pas uniquement une somme d'œuvres d'art qui ferait émerger une autre œuvre d'art, mais c'est une somme d'œuvres d'art qui a été préalablement sélectionnée par une intelligence humaine pour aller dans le sens du propos qu'elle avait l'intention de dire. Donc il y a ça aussi. Donc c'est ce que tu disais, Pierre, tout de suite, quand tu disais bah, c'est pas uniquement... on peut pas uniquement... Par exemple, je peux pas te dire, bon, bah allez, on va prendre 3 œuvres au hasard dans la bibliothèque. On va le faire. Allez, on va le faire.
Allez, podcast pratique.
On va prendre 3 œuvres dans la bibliothèque et on va essayer de voir quel jeu de rôle pourrait émerger de ça. Alors, je tombe sur un Jules Verne pour la première. Okay, et c'est Voyage au centre de la Terre.
Ah, tombe bien, je l'ai lu.
Déjà, on commence bien déjà. Je prends un deuxième livre. Un livre, donc c'est un livre, c'est la sélection du livre. Donc, on va prendre le tout premier. C'est écrit Un temps pour aimer. Alors, je ne connais pas le... Je connais pas le truc.
Je n'ai aucune idée de ce que c'est.
Voilà. Et puis, moi non plus, je n'en ai aucune idée. Et là, je vois du Conan Doyle, œuvre 20. Donc, je tombe sur le Conan Doyle, œuvre 20. Donc, c'est quoi? C'est une collection complète.
C'est une compilation, je pense.
Ouais, c'est ça. Donc, le dernier serait quoi? Souvenirs et aventures. Bon, alors, il se trouve que là, on est dans la bibliothèque d'un rôliste. Hein. Ça se sent un peu. Donc, mais voilà, tu vois. Donc là, on a Jules Verne. Voyage au centre de la Terre, machin, etc. Alors, on pourrait effectivement, donc là, on vient de faire une expérience de boîte à JDR, finalement, on pourrait imaginer une histoire d'amour qui se déroule au centre de la Terre.
Dans un monde un peu steampunk.
Voilà, avec des enquêtes, etc. Machin. On pourrait imaginer ça. Et là, on ferait un espèce de travail d'IA, de compilation, etc. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on va choisir de sélectionner ? Tu vois, l'IA, en fait, elle va compresser, elle prendrait tout le contenu des ouvrages et puis elle générerait un texte sur la base de ces textes-là. Et il serait peut-être très cohérent, très intéressant, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais elle n'aurait pas choisi. La sélection, en tout cas, ne serait pas consciente. En fait, on en revient toujours à ça, en fait.
La l'intention.
Ouais. C'est incroyable, ça. Et donc, du coup, alors que nous, si on lit les 3 livres-là et qu'on en forme un jeu de rôle, bah, on aura sélectionné des choses qui nous sembleront pertinentes, qui vont nous parler. En fait, naturellement, l'être humain est une source à cohérence, en fait. Il donne du sens, en fait. C'est la fonction des humains.
Je crois qu'une règle de base pour que ta mémoire fonctionne, c'est que pour que ton cerveau il enregistre des informations, il faut qu'il les comprenne et qu'il les rende dans un arbre de cohérence. Donc, il semblerait que nous soyons câblés pour ça.
Donc on est câblé en fait pour...
Bah je crois que pour bien retenir une information, il faut déjà comprendre cette information et la mettre en corrélation avec une autre. Exemple typique que je connais bien, c'est plus évident de comprendre 2 associations de caractères chinois que juste imaginer qu'ils vont exister isolément dans ta tête. Il y en a un qui est dans un côté, un dans un autre, et que c'est en formant des connexions logiques entre toutes les possibilités combinatoires que tu peux retenir des... des caractères chinois. Ça, c'est dans la théorie, hein, parce que je vous jure, j'arrête pas de les oublier, c'est chiant.
Ouais. Donc en fait, en gros, il faudrait qu'il existe, des.
Mais après, tu vois.
Un réseau de cohérence pour retenir les informations.
Vu qu'on a pris ces trois bouquins au hasard là, même avec la meilleure volonté du monde, est-ce qu'on en tirerait quelque chose de pertinent, quoi ? Est-ce qu'il existe en nous quelque chose qui viendrait se frapper sur ces trois bouquins ?
En tout cas, l'expérience de pensée est intéressante. L'expérience de pensée est intéressante. Et ces trois bouquins ont eux-mêmes leur propre cohérence, tu vois, leur propre...
Ouais, c'est ça, c'est un travail de découpage, de raccordage d'un réseau. Et si après, ce réseau doit alimenter quelque chose, quoi.
Si les trois bouquins t'intéressent et que tu trouves qu'ils sont vraiment fascinants, intéressants et tout, tu vas trouver un moyen, c'est sûr. Mais
ouais, c'est vrai.
En fait, ce qui est rigolo, c'est que ce sujet de l'inspiration, je me rends compte qu'il est... On touche là à quelque chose de vraiment, vraiment central, en fait. Il y a quelque chose de...
Existentiel.
Ouais. Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'un mélange d'histoire ou d'univers est raté, la mayonnaise prend pas, tu vois ? Et qu'est-ce qui fait que ça parvient à avoir du sens en soi et devenir une nouvelle... Et là, franchement, si on avait la réponse à cette question...
On pourrait faire des bons jeux à tous les coups.
Ouais. Exactement, c'est un peu la panacée. Et alors, dans quel contexte, toi, t'as été confronté à ces questions-là ?
Bah, moi,
tu parlais d'un jeu que tu voulais créer.
Ouais, Aube, qui... je pense que, tu vois, si je voulais donner un propos dans ce jeu, ce serait un peu l'exploration du mythe de Sisyphe, malgré le fait...
Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est le mythe de Sisyphe ?
Alors, le mythe de Sisyphe, si j'ai bien compris, heureusement, nous avons un spécialiste de philosophie avec nous.
Ah, mais c'est... alors, attends, parce que moi, j'ai pas révisé mon Camus. Hein.
C'est... En gros, c'est déjà, la première phrase de cet essai est ultime. Il n'y a qu'une seule question philosophique sérieuse, c'est celle du suicide. Déjà, pas. Ouais, et bon. En gros, c'est Camus est issu d'un siècle où on est confronté à l'absurde, le XXe siècle et toutes ces violences de la guerre, de diverses crises, etc.
Ouais.
Il y a bien sûr plein d'environnements. Socio-historique, etc.
C'est énorme. Ouais, okay.
Et du coup, et bien sûr, je pense une question fondamentale de tout être humain qui est pragmatiquement, j'ai conscience de ma finitude. Je suis dans un monde qui a par bien des aspects peut-être dur sur divers plans. Et tout ce que j'accomplis quelque part sera voué au néant des larmes sous la pluie.
Sous la pluie, pour reprendre la fin de Blade Runner.
Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'être humain, pour malgré tout... je ne sais pas si c'est un propos sur le bonheur. Il faudrait que vraiment que je le relise, parce que je pense que ça, ce sera un pivot pour mon jeu. Mais il y a cette idée qu'on a beau être dans un désert infini qui est celui de la vie, on peut, en reprenant l'exemple de Sisyphe qui est condamné à pousser sa pierre en haut d'une montagne et qui va retomber inéluctablement, on peut apprécier dans le labeur quotidien, dans le fait de connaître sa pierre qu'on pousse, on peut apprécier le fait de monter les montagnes et de les redescendre et de toujours monter une montagne plus grosse pour la redescendre et tout. Après, il faudrait que je bosse un peu plus mon Camus, mais moi j'aime beaucoup cette idée, surtout quand on a connu... le confinement, quand on vit dans notre monde qui, par bien des aspects, nous échappe, parce qu'il faudrait une puissance intellectuelle, culturelle, etc., pour comprendre notre monde de la manière la plus... en le tendant le plus vers l'objectivité, qui est folle, pour comprendre les choses absurdes qui nous arrivent, la mort, la maladie, l'injustice pour les autres, notre rapport au monde en tant qu'occidentaux qui avons la chance d'avoir... une société développée qui nous permet de plus nous réaliser que d'autres peuples,
nous émanciper,
notre système de pensée, notre système de pensée occidentale qui nous permet aussi de penser notre condition, l'accès à la connaissance qui nous permet de peut-être plus développer notre liberté, etc. Enfin bref, il y a... Je me perds un peu.
Non, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire que comment dans ce que tu soulignes, c'est que notre condition existentielle, à nous les Occidentaux, nous met dans une situation où difficile, d'un rapport au monde qui est difficile, où on est dans une forme de culpabilité vis-à-vis des ressources que l'on exploite. Là, en plus, on arrive à la fin du monde, en fait. Donc, au moment où, effectivement, l'humain aura consommé toutes les ressources sur sa planète et où celle-ci va...
La fin d'un monde, en l'occurrence, la fin du monde tel que la révolution industrielle l'a pensé. Quoi.
Voilà, exactement. Donc c'est, tout ça est très angoissant. On peut se dire à raison, à quoi bon ? C'est la question de la dépression, de tout ça.
Mais même avant ça, où malgré tout le confort de vie qu'on avait, la dépression est une maladie du 21e siècle. Alors que... Si on était purement matérialiste, on pourrait se dire on peut satisfaire nos besoins primordiaux de manière infinie. Ça devrait être bon, tu vois. Mmh. Et pourtant.
Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est et pourtant, il faut pousser sa pierre et la remonter et toujours vers la montagne, etc. Mais il y a aussi chez Camus cette notion de révolte métaphysique constante à l'égard de l'absurdité du monde. Donc c'est un peu le...
Ça, je veux bien que tu expliques parce que c'est pas la partie de Camus où je connais le mieux l'homme révolté.
Alors je dis ça de mémoire, hein, ça fait des années que j'ai pas lu le bouquin, hein, ça fait 20 ans que je l'avais pas lu, donc là je te le dis de mémoire, voilà ce qu'il m'en reste. Et vraiment, il faudra aller le lire par vous-même parce que si ça se trouve, ce que je dis, c'est complètement de la merde. Mais l'idée en fait, c'est que pour moi, j'y vois une espèce d'une forme de... d'autres révolutions cartésiennes. Descartes, lui, il dit, mais tiens, et si le monde
n'était qu'une illusion,
etc. Et en fait, Descartes découvre, même si tout est une illusion, il n'en reste pas moins qu'il y a un être qui est
qui pense et
illusionné.
C'est moi.
Voilà, donc je suis, j'existe. Cela est certain. Et voilà la révolution cartésienne, c'est de dire qu'il existe... une entité qui pense, qui est, quand bien même tout serait faux, qui est trompée et qui est victime de cette... Donc ça, c'est Descartes. Et en fait, la révolution de Camus, c'est de dire, ok, le monde est absurde. C'est-à-dire que lui, c'est pas il est faux, c'est ok, tout le monde est absurde. Il me reste une option, qui est la révolte. La révolte métaphysique contre cette absurdité. Et donc, j'imagine, mais bon, moi, c'est comme ça, en tout cas, que quand j'ai... Parce qu'en fait, après, il existe une façon de se révolter par individu. Je pense que Camus n'est pas prescriptif sur la façon de se révolter dans son bouquin. Ou alors, c'est que je m'en souviens plus. Peut-être qu'il a... Moi, en fait, quand je suis sorti de ce livre, je me suis dit, ok, moi, je vais me révolter de cette façon-là. Et donc, tu vois, me révolter contre la métaphysique, contre l'absurdité du monde, ça a été, par exemple, de créer sens, de fonder la cellule, pour exister, pour mettre fin, en fait, à l'absurdité du monde, lui donner du sens et tout ça, et etc. Et donc, moi, c'est ça que j'en ai ressorti de l'homme, que j'ai ressorti de l'homme révolté, quelque part un nouveau mouvement un peu nietzschéen d'émancipation, de volonté de puissance, de révolte, en fait, contre l'absurdité du monde et donc de fondation d'une fondation sur soi-même, en fait, d'une quête de sens, une quête de... etc. Et évidemment, le monde est absurde. Et il retournera à l'absurdité lorsque je cesserai d'exister. Hein, pour chacun, chaque personne qui naît dans l'absurdité. Et c'est à soi-même de créer ses conditions d'émancipation de cette absurdité-là, de se révolter. C'est à chacun de se révolter. Et donc, du coup, je pense que dans le mythe de Sisyphe, que je n'ai pas lu, mais de la manière dont on en parlait en préparation du podcast, dont on parle là, j'ai la sensation, en fait, que lui, sa façon de se révolter, c'est de dire, ok, peut-être le monde est absurde, mais moi, je continuerai ma tâche, mon travail. Toujours la pierre retombe, parce que toujours le monde retombe dans l'absurdité. Mais moi, j'aurais été dans l'absurdité. Cette constance, cette force de travail et tout ça. Où êtes-vous, quoi ? Voulez-vous vous céder à l'absurdité ?
Est-ce que tu t'assois dans le désert ou tu pousses la pierre, quoi ?
Ou est-ce que tu pousses la pierre ? Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose de sorte là. Oui, la cellule, les idées progressistes de la cellule... quand la cellule s'arrêtera, personne n'en entendra plus parler, tout le monde s'en foutra. Très certainement, tu vois. De la même manière que, bon, Alien D, qui sait qui est Alien D en France aujourd'hui, tu vois. Personne, en fait. Enfin, je pense qu'il y a... Si tu interroges les gens dans la rue et que tu leur demandes qui est Salvador Allende, on s'en fout, quoi, tu vois. Je veux dire, tu vas tomber sur quelques personnes d'extrême gauche ou des gens qui s'intéressent à la gauche qui vont être là en mode « Ah ouais, si, c'est bien. Je connais ça. » Mais tu vois, c'est... Ça va être... voilà, quoi, c'est... Ça va être personne, quoi. Alors que pourtant, putain...
Et entre quel héros. Et après, tu te retournes, mais de toute façon, après avoir fait ça, tu te retournes derrière les montagnes que tu as traversées et tu te dis, ah, ça valait le coup quand même.
Et voilà, et c'est ça exactement. Tu te dis, mais au moins, bah, j'aurais pas vécu dans l'absurdité, ma vie aura eu ce sens-là. Et c'est, voilà, j'aurais poussé une pierre, effectivement, toujours elle sera retombée, mais au moins j'aurais fait ça. L'objectif n'est pas forcément de changer le monde, l'objectif c'est de s'y sentir bien. Donc, peut-être que je ne réussirai pas à changer le monde avec la cellule. Peut-être qu'on ne réussira pas à changer le monde avec nos jeux fantastiques, Pierre. Mais au moins, pendant le temps où on l'aura créé, où on l'aura fait, bah, on aura vécu une forme d'utopie, on en aura rêvé, etc., etc. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans le monde de Sisyphe. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe.
Non, bah, non. Moi, je pense que c'est... y a de ça. Et puis, le côté vaincre tous ces affects négatifs, tu vois.
Ouais, il y a le côté force aussi, d'âme, ouais, force d'âme de toujours repousser la
roche. Ou alors le côté de vivre avec et pourtant de continuer. Ça, c'était vraiment le côté que j'aurais voulu exploiter en jeu. Comment malgré les pensées suicidaires, quand malgré la dépression, quand malgré l'horreur qui sommeille dans le monde et à l'intérieur de toi,
on trouve la force de se relever.
Tu peux voir l'aube venir, quoi.
Ouais. Et donc, tu voulais être dans l'aube. Ah, bah oui, du coup, d'où le nom du projet.
C'est pour ça, c'est...
Ouais. Alors, en quoi les inspirations... Alors, je reviens sur ma question. Mais ta question, d'ailleurs, c'est toi qui viens avec cette question. En quoi les inspirations ont-elles posé un problème dans ce projet-là? Quand est-ce que tu t'es dit, ah, putain, je sais pas comment traiter mes inspirations?
Je me dis que, déjà, vu que moi, je suis très partisan de la spécificité du média, par là, j'entends, je pense que c'est quelqu'un, ça doit être un théoricien du cinéma... Qui en a parlé en ces termes, c'est que il faut que, pour moi, pour réussir une œuvre dans un média donné, il faut que cette œuvre attrape l'essence du média. Le cinéma, c'est de montrer, de savoir utiliser les outils dans une perspective cinématographique, alors que dans une œuvre littéraire, c'est la maîtrise de la stylistique. Même si je pense qu'en disant que la littérature, les bonnes œuvres littéraires sont résumées à la stylistique, il y a Natacha Forel qui viendra me péter la gueule. D'ailleurs, bisous Natacha. Et pour moi, pour la clé pour le bon jeu de rôle qui doit transmettre ton propos, ce sera le système de jeu et de résolution qui bouclera parfaitement. Mais le problème avec mes inspirations, tu vois, dont je te parlais, Silent Hill, ce genre de choses... Moi, j'avais les images du jeu en tête, quoi, qui étaient résiduelles. Parce que je sais qu'on ne peut pas juste faire un univers aussi beau et construit soit-il, et juste plaquer un système qui ne conviendra pas.
En fait, Silent Hill t'a inspiré cette aube-là, cet espoir-là?
Non, juste...
Justement pas.
Justement, Silent Hill 2...
Ouais.
Attention, non, je ne vais pas spoiler Silent Hill 2, mais...
Bon, l'histoire, prescription, bouchez-vous les oreilles si vous.
Si vous ne voulez pas connaître la fin de Silent Hill 2, rappelez-vous que le monde est un endroit absurde et poussez votre pierre. Alors, en gros, le personnage de James dans Silent Hill 2 qui part à la recherche de sa femme Mary qui est censée être décédée depuis 3 ans et on le voit très vite dans le jeu. Enfin, il est mal dans sa peau, il est déprimé et tout. Mmh. Et il passe par Silent Hill pour se prendre un. Comment on appelle ça, le lieu entre les enfers et le paradis.
Purgatoire.
Un purgatoire personnel. Et tout ça pour à la fin découvrir que, bah non, sa femme n'est pas là, quoi, elle est morte. Et c'est lui qui a mis fin à ses souffrances, mais pour lui aussi dans des pulsions un peu égoïstes, etc. Mais tu vois, il y a plusieurs fins dans Silent Hill 2. Mais la fin canon s'appelle la fin dans l'eau. Et en fait, dans la fin dans l'eau, c'est... après avoir compris que tout ça n'était qu'à purgatoire, que que Marie n'ait pas envie, il met le corps de Marie dans le coffre de sa voiture et il se jette dans le lac avec. Et voilà. Et moi, tu vois, je pense que James peut sortir de Silent Hill et peut-être peut gagner, tu vois, enfin peut faire autre chose.
J'ai une analyse de Silent Hill 2 qui est complètement différente, mais ok.
Après c'est, là, ce que non, je te vends, c'est une analyse qui est valable parmi d'autres, parce que Silent Hill 2, de toute façon, c'est... Ah.
Ouais. Ah, ok, bon.
Et pareil, Silent Hill 4, qui m'a extrêmement inspiré, Silent Hill 4, qui est fou. Je vous conseille de le faire si vous ne l'avez pas fait. Enfin, l'histoire de ce mec qui est enfermé chez lui, de l'intérieur et tout, ouais. Enfin... Le symbolisme qu'il y a derrière ça, c'est fou, tu vois, l'idée d'être enfermé à l'intérieur chez soi, mais est-ce que c'est pas être enfermé en soi-même, etc.
Moi, j'ai trouvé que la première partie du jeu était extraordinaire, mais que la deuxième partie où tu peux pas tuer les fantômes et où tu te retrouves, c'était horrible. Je trouvais ça très oppressant, mais ouais. Pas dans le bon sens, mais tu vois, c'était un calvaire.
Mais en même temps, quelle audace, bordel, quelle audace.
Ouais. Bon. Avec des... j'ai pas trop compris l'intention. Ça m'a sorti.
Vrai, je crois que c'était des problèmes de développement de jeu parce qu'ils avaient dû faire ce jeu vite fait parce que Konami c'est des cons et ils aiment bien exploiter les gens très talentueux qui bossent pour eux. Quoi. Je vous conseille d'aller écouter les podcasts de Plouf et Pseudoless sur Silent Hill si vous voulez découvrir, c'est très très bien.
D'accord, ok. Et alors, en fait, j'arrive pas, toujours pas, à comprendre en quoi est-ce que Silent Hill t'a posé problème dans la création, l'inspiration Silent Hill. T'avais trop. Alors, t'as dit d'abord ce que t'as dit au départ sur quand je crée, je me dis ok, il faut que cette œuvre-là soit dans ce média-là et quelque part apporte quelque chose à ce média-là. Moi, je le résume souvent en disant si votre œuvre peut être portée par autre chose que ce média-là. Alors, c'est pas bon. C'est-à-dire que si on pouvait en faire un film ou si on pouvait en faire une BD, souvent c'est pas bon. C'est que c'est, à mon avis, une œuvre qui apporte quelque chose aux médias, une œuvre dans le sens où tu l'entends là, je parle d'une œuvre et oui. Pas d'un produit. Hein.
Je ne parle pas de produit.
Voilà. Une œuvre dans ce sens-là, ça veut dire qu'il fallait que ce soit ce média-là et pas un autre. Je prends par exemple l'exemple de Sens. Sans, ça pouvait difficilement être autre chose qu'un jeu de rôle. Et ça pourrait être difficilement autre chose qu'un jeu de rôle. Je pense. Oui, ça pourrait être peut-être un jeu vidéo. Peut-être.
Non, moi je pense pas. Non, okay. Pour la fin de Sens, je pense que...
Non, effectivement. Mais voilà, tu vois, par exemple, il y a plein d'œuvres où tu te dis, ça aurait pu être autre chose que ce que c'est. Ça aurait pu être un film, ça aurait pu être un machin. Et ça, en général, c'est pas bon signe.
D'où le truc un peu troll, là, avec... Ce truc, je sais plus si c'était une parodie de quoi que vous avez fait sur La Cellule ou les caricatures d'éditeurs là. Oui, vas-y, puis on va faire une BO et puis on va faire un jeu vidéo après.
Les éditeurs créent un jeu en 15 minutes.
Ouais, c'est ça. Collector, ça, Collector. En tant qu'archiviste de La Cellule, je vous le conseille.
C'est vrai que tu connais bien les podcasts de La Cellule, toi. T'es vraiment, tu connais mieux les podcasts de La Cellule que moi-même, je pense. Donc, du coup. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc ça, c'est une contrainte forte qui pèse sur le travail que tu veux faire.
Mais aussi, en même temps, le problème de ça...
C'est un peu oppressant, quand même, comme, de travailler avec cette contrainte-là. Dire, ben...
Il y a peut-être le fait aussi que... Je citais un autre philosophe, décidément, aujourd'hui, c'est la journée. C'était Alain qui parlait de l'œuvre fantôme, qui disait qu'une œuvre n'existait à partir du moment où tu commençais à te mettre au boulot... Et que tu l'as cessé d'en voir une image fantomatique. Je pense que c'est aussi un problème de début d'écriture. J'imagine. Après, je pense qu'à force de maturer, ça commence à se transformer en autre chose dans ma tête. Parce que. Il n'y a pas seulement que Silent Hill qui se croise quand même, il y a aussi ma découverte de la vie parisienne et puis la vie nocturne parisienne qui me fascine, qui ressemble un peu à un monde incroyable.
Moi, je pense qu'avant d'avoir des intentions pour le média et tout ça, je pense que d'abord, il faut vouloir se faire plaisir.
Ah bah oui.
C'est la base, tu vois.
Je veux me faire plaisir aussi. Ouais. Hein. Enfin, je voulais dire quelque chose avec ce jeu, tu vois. Il y a aussi le côté, j'aimerais bien apporter ma pierre à l'édifice cellule, tu vois, aussi.
Mais ça, en fait, tu pourras le faire qu'en te faisant plaisir.
Ah bah je vais me faire plaisir.
Ouais, c'est ça.
En parlant de dépression, de mort, de suicide, ça va être le fun.
Mais non, mais en fait... ça peut faire du enfin se faire du bien.
Bah oui,
autrement, peut-être plaisir, c'est un peu abusé, mais se faire du bien. Parler de suicide, de dépression et tout, quand tu sais pas comment en parler autour de toi sans paraître pour un gros connard, trouver le moyen d'avoir un média, un jeu qui mette les gens autour de la table.
Et surtout en parler dans un média qui n'a pas forcément traité toutes ces questions en plus. À part Vampire, peut-être, ou des jeux comme ça.
Il y a Frédéric Sintès, vaguement, qui a travaillé quand même beaucoup là-dessus.
Les cordes sensibles, ouais.
Donc voilà, mais oui, je vois bien. Et alors, Silent Hill 2, du coup, moi ce que j'ai l'impression, c'est que t'es un peu dans la... comment dire ? Silent Hill 2, c'est une œuvre qui pour toi est tellement impressionnante qu'elle elle t'empêche d'avancer. De
ouais, il y a un peu de ça, oui. Il y a un peu le côté...
je vais pas pouvoir faire mieux.
Ouais, un peu côté trouver l'essence sans répéter le truc, sans retomber dans l'hommage. Après, il n'y a pas que Silent Hill 2 dans le croisement.
C'est ce que tu dis. Trouver l'essence du truc sans tomber dans l'hommage.
C'est souvent ça le problème. C'est...
Ouais. Dans le sens, il y a plein de problèmes comme ça. Il y a plein de clins d'œil, il y a des jeux vidéo, par exemple le moment avec les Nemesis qui fait référence à Star Fox, ce qu'on appelle des easter eggs, souvent.
Ah, les petits.
Ouais. Donc la différence
encore
entre...
dans ce sens, je trouve ça assez léger quand même.
Ouais, il y en a. Oh là là, c'est lourd.
Ouais.
Si, il y en a. Si, fais-moi confiance. Mais bon, peu importe. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle des easter eggs, des hommages, des clins d'œil, des machins. Et là, en fait, ce que tu veux, c'est... Vas-y, répète, trouver l'essence sans tomber dans l'hommage.
Sans tomber dans l'hommage, oui.
C'est intéressant. Et du coup, tu es impressionné par Silent Hill au point que tu n'arrives pas à écrire, tu n'arrives pas à sortir de
ta... C'est plus quand, tu vois, j'imagine le truc dans ma tête et je me dis, bon, maintenant, il faut le coucher sur le papier avec tous les problèmes du langage, bien sûr.
Est-ce que tu as beaucoup d'images qui te viennent en tête quand tu penses à ton jeu ?
Ouais, il y en a une en particulier auquel je pense souvent, c'est quand j'ai besoin de traverser... Paris dans la nuit, etc. J'imaginais toujours, tu vois, une image d'une femme qui serait, tu vois, adossée à un lampadaire. Et tu es dans une espèce de nuit très profonde, seulement éclairée par quelques lampadaires. Et là, tu vois, elle l'attraperait son visage, elle le ferait comme ça. Mmh. Ça, c'est une image qui me reste en tête beaucoup.
Parce qu'en fait, une des questions que je me pose aussi par rapport à beaucoup de jeunes créateurs, auteurs de jeux de rôle, c'est l'influence du cinéma et de la série et du jeu vidéo sur leur travail.
Moi, le cinéma, ma vie, quoi.
Ouais. Et c'est voilà, c'est parce que en fait, moi j'invite vraiment les auditeurs, auditrices à réécouter le podcast sur le cinéma et le jeu de rôle de Flavie. Où elle explique justement qu'attention, vous n'êtes pas en tant qu'auteur de jeux de rôle réalisateur de cinéma, vous n'êtes pas des réalisateurs de films. Et donc, du coup, et parfois je me dis, mais tiens, mais si c'est ça l'image que tu as dans la tête, est-ce que tu ne devrais pas réaliser un court-métrage plutôt que de réaliser un jeu de rôle ? Est-ce que le jeu de rôle est vraiment le média pour ça, tu vois ?
Oui, parce que je sais que je ne prendrais probablement pas de plaisir à tourner un film pour. Toutes les contraintes qu'implique le cinéma. Déjà, il y a des contraintes, bien sûr, d'ordre économique, mais il y a aussi des contraintes que de toute façon, tu ne pourras pas... enfin, tu devras faire beaucoup de compromis sur ta vision, parce que le cinéma appelle... Enfin, la physique, le vrai monde, quoi.
Ouais, bien sûr.
Les contraintes de l'instant et tout. Et parce que moi, ce que j'aime, c'est... Enfin, moi, pour le média qui ne sort pas de ma tête depuis des années, c'est le JDR, quoi.
Ouais, très bien. Quels sont les jeux de rôle qui pourraient t'inspirer pour Aube, du coup ?
Si je devais te dire des sources d'inspiration, il y a déjà il y a Vampire, bien sûr.
Ouais, intéressant. Je vais prendre en note. Parce qu'en fait, moi, c'est ça surtout. Je pense que si tu veux faire un jeu de rôle, il faut d'abord chercher des sources d'inspiration, des parties. Quelles sont les parties, par exemple, de jeux de rôle que tu as faites dans lesquelles tu t'es dit, là, on touche à des choses qui sont proches de ce que je voudrais faire pour Aube ? Vampire, donc, tu me dis ?
Ouais, Sens Mort, je pense, beaucoup.
D'accord.
Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre aussi comme jeu ?
Qu'est-ce qui te plaît dans Vampire, alors, et qui fait que ça ressemble à Aube ?
Moi, alors... je vais un peu entamer sur le podcast Trilogie des Vigris sur Vampire, mais tant pis.
Ouais,
moi, ce qui me plaît dans Vampire, c'est pas forcément le background énorme distillé dans les suppléments et tout, qui semble avoir plu à beaucoup de gens de Vampire. Et d'ailleurs, on verra que dans la V5, ils ont remis ça un peu à plat, et je pense que c'est pas anodin. Ça me permettrait de développer une série. Mais moi, enfin cette idée, tu vois, qu'il y a des êtres qui parcourent la nuit, qui luttent contre eux-mêmes et qui sont quand même dans un monde pourri en décrépitude, qui est le monde des ténèbres. Où...
Est-ce que cette sensation, est-ce que cette idée là t'a hanté pendant les parties de vampire qu'elle t'a hanté quand tu sortais d'une partie de vampire?
Les deux, mais tu vois, ma campagne de vampire, ça se passe à Paris. C'est que je l'ai fait, mes scénarios ne prennent place que dans des lieux que je connais, que j'avais envie de faire découvrir à
aux joueurs,
à mes joueurs.
Ok. Et dans Sens Mort, alors qu'est-ce qui te
dans Sens Mort, ce qui m'a intéressé, c'est la collectivisation des moyens de production.
Donc dans Sens Mort, qu'est-ce qui t'a...
Dans Sens Mort, bah il y a le côté image à la fois extrémisée et en même temps à la fois proche de notre société à nous, de ses dérives, et puis la froideur des êtres humains dans Sens Mort, quoi. Ces gens froids là qui...
Tu connais le travail de Godfrey Reggio, Koyanis Katsi, par exemple?
Pas du tout. Non.
Ah, d'accord. Ça, Koyanis Katsi, je t'invite à le regarder.
Il faudra que tu m'écrives.
Ouais, donc. Parce que là, tout ce que tu dis, des êtres qui parcourent la nuit, des fantômes...
Ah, les fantômes, ça bonne source d'inspiration, les fantômes.
Ouais, là, tout ce que tu décris... Sens Mort est un jeu qui s'est énormément inspiré de Koyanis Katsi. Donc, je t'invite vraiment à regarder Koyanis Katsi. J'ai le film ici. C'est ouf. C'est complètement ouf. Donc, ouais, ça c'est à voir absolument. Après, je te conseille. Je te dis, il ne faut pas s'inspirer du cinéma et je te conseille un film. Déjà, bravo, la cohérence du bonhomme. Mais voilà, ça peut penser à ça.
Il y a aussi, que je ne suis pas très branché art pictural et tout, mais les tableaux de la Belle Époque parisienne, je ne sais pas, je trouve qu'il y a une quintessence dans ces images aussi, qui pourtant sont un peu à l'inverse de ça, des images très colorées, mais je sais pas, les vêtements que portent les gens sur ces tableaux, le côté esthétique, et je crois que la Belle Époque, historiquement, malgré les apparences, c'est une période terrible pour tout le monde. Il y a un peu ce côté-là.
Peut-être courte aussi. Il y a un paradoxe, je crois, dans la Belle Époque, qui est qu'il y a des gens qui vivent très bien, et il y a des gens qui vivent très mal. Il y a plein de tensions. C'est aussi une période sur laquelle plane, me semble-t-il, je vais faire une recherche là-dessus, mais l'ombre de la guerre, en fait. Alors, attends, la Belle Époque. Mais je vois tout à fait, ouais, avec ces femmes, avec des vêtements un peu Charleston.
Leur grand chapeau, l'élégance.
Mais c'est vrai, quand tu vois. En plus, là. Ça, par exemple, les tableaux comme ça, là, c'est qui déjà qui a fait ce tableau-là? Ça pourrait être un bon truc en illustration du podcast, ça. Ah là là, j'ai aucune culture picturale, je connais rien.
Je conseille aux auditeurs...
Pierre-Victor Galland, le bar Maxim's. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très fantomatique, de très...
Je conseille aux auditeurs, si vous ne viviez pas à Paris, mais que vous y passez à l'occasion pour visiter, etc. Le musée Carnavalet, c'est un musée sur l'histoire de Paris. Il y a énormément de tableaux de la Belle Époque, des œuvres. Moi, à chaque fois, je passe devant, je fais waouh.
La Belle Époque de 1871 à 1914. Donc, c'est la fin, c'est la guerre en fait qui va mettre fin à la Belle Époque. Et donc, il y a quelque chose aussi de l'ordre d'une nostalgie.
Je sais pas, quand je vois ces tableaux, je me dis, ils cachent quelque chose, tu vois. Il y a des fantômes qui se baladent là-dedans, quoi.
Ouais. Il y a un côté très spectral, très...
Ouais.
Ouais. Peut-être aussi porté par... je me demande si au début du siècle, il y avait aussi tout un courant sur le spiritisme et tout, là, qui naissait. Il y avait ce truc-là, ouais.
Puis je crois aussi que le 19e siècle, c'est un...
Victorien, c'était quoi en Angleterre à ce moment-là? C'était la période victorienne?
Je crois que aussi la Belle Époque, c'est un moment extrêmement de... C'est un moment de progrès technique et en même temps, je crois que c'est une période de grande misère pour plein de gens, tu vois. C'est régression de certains droits et tout. Et là, il faudrait que j'aille faire des recherches sur la Belle Époque, typiquement.
Ah oui, si c'est un moment qui te fascine, ça veut dire que ça... Je sais pas, moi, je trouve que tu commences déjà à avoir quelque chose de solide, là.
Mais maintenant, il faut trouver les bonnes mécaniques pour aller avec ça.
Voilà, déjà, tu as une vision du type de partie, du type de direction artistique que tu veux émuler.
Ouais, maintenant, il faut trouver le système qui fait émerger ces propositions.
Ouais.
Et ça, c'est... J'ai quelques idées, mais il faudrait que j'essaie de les tester, de les mettre en application.
C'est...
De faire des pics au jeu sur ces idées.
Ouais, mais tout à fait. Hein. Ça, ouais. Si Valentin était là, c'est ce qu'il te conseillerait. Hein. C'est de tester plein de petites boucles de gameplay, des mini-trucs, effectivement, et puis de voir ce qui se passe et ce qui émerge. Ouais. Après, je ne sais pas si c'est toujours une méthodologie. Ça dépend, je ne sais pas. Moi, je réfléchis pas comme ça.
Moi aussi, je serais bien le genre à écrire un truc pendant deux mois, faire allez, tiens.
J'ai du mal à. Mais je comprends ce que veut dire Valentin, évidemment. Et puis,
mais c'est un conseil plein de bon sens. Qui ne sait pas, on lisait dans des idées qui étaient un peu nulles et puis après que tu as écrit tes 150 pages, tu n'as pas envie de recommencer.
Ouais, exactement. Ouais. Et donc, du coup, en fait, le problème que tu vois dans les inspirations, c'est comment.
Ne pas se faire dévorer par elle, quoi. Ne pas...
Alors ça, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est très intéressant, ça. Quand...
Tu vois, quand c'est ce que je te disais un peu au début du podcast, quand on me dit écrit Trip to Sky, je pense à Trip to Sky, je ne pense pas à « Ah, c'est les Chevaliers du Zodiac. » C'est les Chevaliers du Zodiac avec des mecs dans des bateaux et du cap et d'épée, quoi.
D'accord, ouais. Bon, je pense qu'il y a des gens qui le pensent comme ça. Hein.
Oui, bien sûr, mais...
Ceci dit...
Oui, bien sûr, mais... Ouvrez vos cœurs, les gens, je sais pas, faites un effort.
Non, mais ok. Mais...
Ouais. Tu vois, je pense que si tu réfléchis un peu, tu fais... Ah, mais oui, bien sûr. Mais si...
T'as pas envie, en fait, que les gens reconnaissent immédiatement les inspirations et du coup que ça occulte ton propos personnel.
Ouais, ou je veux que les gens voient qu'il y a de la sincérité là-dedans, quelque part, tu vois. C'est qu'il y avait l'envie de transmettre un truc. Bon, bien sûr, ça, c'est le cas dès qu'on essaie d'être créatif sur un truc, hein, bien sûr.
C'est intéressant, en tout cas, ta démarche.
Donc, peut-être ferais-je tester Aube à la cellule. Quoi.
Ah bah, je veux, oui, mon neveu. Tu rigoles ou quoi? Attends, ça a l'air cool en plus. Ça a l'air cool. Parce que
sur le papier, ça a l'air cool. Maintenant, et je vais arriver avec un vieux jeu tout cassé, tu sais.
Bah ouais,
c'est de
bon.
La merde. C'est de la merde. Jette-toi dans le canal.
Ah, c'est trop bon. Non, mais c'est... Je sais pas. C'est les mécaniques après, tout ça. Est-ce que ça se prête au jeu de rôle? Enfin, c'est vrai que c'est des questions, je comprends.
J'ai pensé à quelques idées, mais il faudrait que je t'en parle hors podcast. Peut-être.
D'accord, ça marche. On en parlera après. Bon, bah, de toute façon, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet que tu voulais aborder. Ça va
Ouais.
Ça répondait à ce que tu.
Ouais, bah, ça confirme certains trucs que je pensais. Ça va donner
du grain à moudre.
Quand le podcast va ressortir, je vais le réécouter environ 15 fois, jusqu'à connaître le début des podcasts. Tu sais que des fois, la période où tu faisais des petites conneries pour les Tipeee, là, quand j'entends les conneries, je fais ah oui, c'était le podcast.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais, t'es un vrai grand malade.
C'est Christophe Lambert. Excusez-moi, vous êtes Christophe Lambert.
C'est quoi alors, par exemple, celui-là, c'est quoi le podcast?
Oui, j'ai oublié en l'occurrence.
Ah, tu m'as commenté. Ok, d'accord, très bien. Bon, merci beaucoup Pierre, en tout cas, de nous avoir apporté ces petits sujets de réflexion. C'était intéressant de se poser cette question des inspirations et de
J'espère
comment
J'espère que, chers aux auditeurs, ça nourrira vos réflexions à vous aussi.
Merci beaucoup Pierre. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao. Portez-vous bien et surtout, jouez bien.
Ciao.